Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont des pertinentes, au Café Service, il met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans les Kinshasa.
Merci de votre fidélité. Pour participer à cette émission, notez nos moyens de contact, le 081 890 63 94 pour les appels et le 081 070 20 50 pour les SMS. Et si vous pouvez encore aller plus loin, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Nous avons en ligne Madame Georgette Biebiesongo, experte en toxicologie et professeure à l'Université de Kinshasa. Bonjour Madame.
Bonjour, JR.
Avaler ou inhaler un poison ou toute autre substance toxique est très souvent de la panique, ça nous le savons, et bien souvent de la précipitation, ne sachant que faire, tout est bon à prendre. Nous allons peut-être nous faire une idée très claire avec vous pour savoir quels sont les effets que produit le poison dans l'organisme et quels sont les antidotes. Vous êtes avec nous en tant qu'experte. Quel est l'effet que peut avoir le poison dans l'organisme humain?
Ça dépend de quel poison vous avez pris, parce que la définition même du poison, c'est toute substance qui est capable d'altérer la santé d'un individu. Donc, l'effet du poison dépendra de la nature du poison que vous avez pris, de la fixation du poison sur l'organe sur lequel il va se fixer, et des conséquences. Les conséquences au niveau de l'organe, c'est la lésion de l'organe. Donc, le poison, en principe, c'est toute substance qui est capable d'altérer la santé d'un individu.
Oui, mais ça fait peur. Y a-t-il un traitement approprié en cas d'empoisonnement?
Bien sûr qu'il y a des traitements, sinon on ne parlerait pas des antidotes. Pour certains poisons, ça dépend du moment, de l'heure à laquelle on a découvert le poison et du traitement qu'on doit appliquer tout de suite, hein, pour essayer de réduire les effets nocifs du poison dans l'organisme ou d'arrêter carrément les effets nocifs du poison dans l'organisme. Mais si on ne prend pas en compte tout de suite le traitement, les conséquences peuvent être graves et entraîner la mort.
Alors,
ça dépend aussi des organes qui sont touchés. Vous savez que dans l'organisme, nous avons des organes nobles. Il y a des organes secondaires. Alors, si un organe comme le cerveau, comme le foie, comme le cœur, les reins sont touchés, évidemment, les conséquences sont rapidement très graves.
Donc, si je comprends bien, le poison est fabriqué en tenant compte, bien entendu, de la résistance de ces organes.
Le poison n'est pas fabriqué toute substance, hein, peut devenir un poison.
Mm-hmm.
Cela dépend de la dose à laquelle la substance est prise. Toute substance peut devenir un poison. Même les aliments, quand vous avez trop mangé, vous avez une indigestion, ça altère la santé. Donc toute substance, par rapport à la dose prise, par rapport à la quantité, donc la dose c'est la quantité,
mm-hmm.
par rapport à la toxicité même de la substance, peut être considéré comme un poison. Donc, on ne peut pas dire que les poisons sont fabriqués. Il y a toute substance naturelle. Si on ne respecte pas les quantités à prendre, peut devenir un poison. Mais toute substance n'est pas un poison.
Donc, si je comprends bien, madame, l'antidote, c'est tout produit qu'on peut normalement utiliser en cas d'empoisonnement. Cas d'empoisonnement, donc l'antidote, c'est ce produit-là qu'on peut utiliser.
Voilà, l'antidote, c'est le produit qui est utilisé soit pour neutraliser les effets nocifs du poison dans l'organisme, soit pour capter le poison et le sortir de l'organisme pour que le poison n'agisse pas. Mais il y a des antidotes spécifiques pour chaque poison.
La condition qu'on s'y prenne à temps.
Mais bien sûr. Alors, je dirais par exemple, dans les cas de quelqu'un qui aurait avalé du pétrole, l'antidote, ce n'est pas le mieux. C'est une mauvaise pratique qui est utilisée dans notre société. Quand on a ingéré du pétrole, on ne peut pas prendre du lait. Parce que dans le pétrole, il y a des jus. Dans le lait, il y a des jus. Et si on donne du lait à quelqu'un qui a pris du pétrole, les jus qui sont dans le lait vont aider les jus du pétrole à mieux se fixer au niveau du cerveau et cela va augmenter la toxicité du pétrole. Donc on ne peut pas donner du lait, toute substance qui a des jus dans sa composition, à quelqu'un qui a pris du pétrole. Si quelqu'un a pris du pétrole, on peut prendre ce qu'on appelle du charbon activé, qu'on peut trouver en pharmacie. Ce charbon activé va absorber, donc capturer le pétrole et le sortir de l'organisme. Donc, il y a beaucoup de fausses informations qui sont données par rapport à l'utilisation de certaines substances dans certains cas d'empoisonnement. C'est vraiment nuisible pour l'organisme de faire certaines pratiques. Par exemple, dans les produits éclaircissants, nous avons du mercure qui est contenu dans ce produit éclaircissant. Les petites quantités de ce produit qu'on utilise tous les jours, il y a des petites quantités de mercure qui pénètrent dans l'organisme, s'accumulent dans l'organisme et vont se fixer au niveau du rein et ça va provoquer des dégâts au niveau du rein. Il y a des produits éclaircissants à base d'hydroquinone. Selon les recommandations des Nations Unies, on ne doit trouver même pas de traces d'hydroquinone dans des produits qu'on utilise en cosmétique. Malheureusement, ici chez nous, plein de produits utilisent encore l'hydroquinone, même s'ils disent que c'est moins de 2%, ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ces produits utilisent des quantités élevées d'hydroquinone, et vous voyez, il suffit de circuler dans Kinshasa, toutes ces femmes qui ont développé le cancer de la peau, c'est suite à ces produits qui s'accumulent dans l'organisme. Parce que le cancer, avant de se manifester, le temps d'incubation est très long. Donc on peut avoir utilisé le produit pendant 10 ans, 15 ans. Le produit s'est accumulé dans l'organisme et la manifestation, c'est le cancer de la peau. Là, il n'y a plus rien à faire.
Et voilà, alors nous savons que les auditeurs sont nombreux à nous suivre, madame. Ils sont à travers le pays et parmi ces auditeurs, il y a ceux qui ont déjà connu des cas d'empoisonnement ou peut-être les autres ont des préoccupations à ce sujet qui aimeraient bien être éclairés par rapport à ce sujet. Nous rappelons qu'ils peuvent nous appeler au 081 890 63 94 pour les appels et au 081 070 20 50 pour les SMS. Mais madame, vous avez parlé d'antidote, disons toute substance, donc ce qui peut normalement avoir des effets néfastes dans le corps humain, mais alors vous avez également
le poison.
Voilà. Alors vous avez parlé également de période d'incubation. Là aussi, vous pouvez peut-être nous faire une idée très précise. Quand le poison dans le corps humain, quelle est la période d'incubation pour que cela se manifeste, même si on ne se prend pas à temps?
Bon, par exemple, je donne l'exemple des ouvriers qui travaillent dans une cimenterie. Un ouvrier qui travaille dans une cimenterie respire la poussière du ciment. Et parmi les substances qui composent le ciment, il y a la silice. Un ouvrier qui ne respecte pas les conditions de travail, les mesures d'hygiène dans une cimenterie, qui ne porte pas de gants, qui ne porte pas de masque, respire la poussière de la silice. Et si cet travailleur est en contact avec cette poussière pendant 15 ans, on a remarqué qu'au bout de 15 ans, il se développe la tuberculose ou le cancer de poumon. C'est ce que nous appelons des maladies professionnelles, des maladies qui apparaissent au bout de plusieurs années. On est en contact avec des petites quantités régulièrement absorbées qui s'accumulent. Parce que quand on parle du cancer, on parle de l'accumulation. Alors, ça donne, par exemple, le cancer du poumon, par exemple, la tuberculose au niveau du poumon. Alors, si le travailleur n'a pas d'information, il ne saura pas que le cancer qu'il développe, la tuberculose qu'il développe, est due à la poussière de la silice qu'il a absorbée pendant plusieurs années. Nous avons, en ce moment-là, en principe, si on a l'information, la société qui a utilisé le travailleur doit prendre en charge tous les frais de traitement qui sont dus à la maladie. Et si, par exemple, le travailleur doit quitter la société, il y a des indemnisations. Si le travailleur meurt, il y a aussi des indemnisations. Donc, ça, c'est un exemple que je donne.
Oui, un exemple.
La plus grande exemple que je pourrais donner. Donc, dans le cas de la Suisse, il suffit d'être exposé pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, il y a des manifestations qui apparaissent.
Entre autres, la tuberculose. Nous parlons avec vous, Madame Biebie Songo, experte en toxicologie et professeure à l'Université de Kinshasa, du traitement à suivre en cas d'empoisonnement. Mesdames et messieurs, vous pouvez également nous faire parvenir vos préoccupations au 081-890-63-94.
Au Café Service, pour participer à l'émission 081-890-63-94, par SMS 081-070-2050 ou Internet service@radiocafé.net.
Amici Fataki de Kindou, merci de nous rejoindre. Vous êtes au Maniema. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jure. Bonjour à notre invité. Bonjour à Jody Kassama et bonjour à tous.
Voilà, merci à Lucie. Quelle est votre préoccupation?
Oui, je voudrais avoir une confirmation de la part de notre invité, parce que nous entendons souvent ici chez nous, on dit que lorsqu'une personne consomme quotidiennement du miel pur, même si cette personne est empoisonnée, sera sans effet. Je ne sais pas si notre invité peut infirmer ou affirmer cela. Voilà ma question.
Alors, nous avons également Deo Gracia qui nous rejoint. Deo Gracia, vous êtes à Butembo. Bonjour, Deo Gracia.
Bonjour.
Voilà, Deo Gracia.
Bonjour, invité.
Oui, Deo Gracia, vous avez quelle préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est que est-ce que la maman ne pouvait pas nous énumérer les antidotes qu'elle parlait, les antidotes pour intervenir vite que possible afin d'approvisionnement. Et la deuxième préoccupation, c'est que comment est-ce que vous pouvez vite constater que vous êtes empoisonné? Et donc, c'est un peu ça. Bon, la constatation vite que possible de l'empoisonnement sur le corps.
Voilà, et la même préoccupation nous vient de Tahiri Akalemi, qui parle de comment savoir qu'on a été empoisonné. Madame Biebie, vous avez suivi les trois interventions. Que répondez-vous d'abord à Missy qui parle de la consommation du miel d'une manière régulière? Est-ce que ça peut vous mettre un peu à l'écart ou vous épargner d'un cas d'empoisonnement? Madame Biebie? Voilà, alors nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant bien entendu les 081-890-63-94 pour les appels ou encore nous faire les SMS au 081-070-2050 ou carrément nous écrire à service@radiocapi.net. Donc avaler ou inhaler un poison ou toute autre substance toxique crée souvent, comme nous l'avons dit en début de cette émission, de la panique et bien souvent dans la précipitation, ne sachant que faire, tout est bon à prendre. Certaines personnes s'empressent d'ailleurs de prendre du lait ou du miel après ingestion d'un poison. Alors, quelle est la conduite à tenir en cas d'empoisonnement et quel est le traitement à indiquer? Nous avons suivi Georgette Biebie et Songo, qui a répondu d'ailleurs à cette question. C'est toute substance donc toxique qui peut constituer un poison. Et en cas d'empoisonnement, il faut éviter de prendre, par exemple, du lait. Peut-être avoir aussi des éclaircissements sur le miel, hein, parce qu'il pourrait revenir dans quelques instants. Dans le temps que Georgette Biebie et Songo sont encore en ligne, nous vous rappelons que vous pouvez également participer à cette émission en nous faisant parvenir vos préoccupations.
Au Café Service, pour participer à l'émission 081-890-63-94 par SMS 081-070-2050 ou Internet service@radiocafé.net.
Voilà, nous avons, comme je l'ai dit en ligne déjà, quelques auditeurs, Amici Fataki, de Kindou, au Maniema, qui a posé la question sur la consommation régulière du miel. Si cela peut vous épargner d'un cas de poison. Et puis, Deo Gracias de Butembo parle de différentes sortes d'antidotes. Il aimerait bien avoir se faire une idée très claire là-dessus. Et comment reconnaître un cas d'empoisonnement? Et c'est la même question qui a été posée par Kairi à Kalemi. Et nous directement du côté de Georgette Biébié-Songo, experte en toxicologie et professeure à l'Université de Kinshasa, qui est notre invitée. Merci encore d'être de nouveau en ligne, Madame Georgette. Vous avez suivi les interventions de trois auditeurs. Que répondez-vous d'abord à Anis, qui a parlé de la consommation régulière du miel qui peut vous épargner le cas de poison?
Ok. En tout cas, j'ai fait un article là-dessus. Le miel n'est pas un antidote. Le miel n'est pas un antipoison. Le miel, c'est un aliment. Le miel peut être considéré comme un remède parce qu'il s'attaque, il détruit le cholestérol qui s'accumule dans les vaisseaux qui peuvent entraîner des maladies cardiovasculaires. Donc, le miel n'a aucune propriété antipoison. Je le dis haut et fort, franchement, c'est une mauvaise pratique. Peut-être que je dis, c'est peut-être pour que psychologiquement, quelqu'un peut ne pas subir les effets du poison parce qu'il croit qu'il a utilisé le miel, mais le miel en soi n'a aucune propriété, aucune activité anti-poison.
Alors, Deo Gracia aimerait bien savoir les différentes sortes d'antidotes, parce que le miel est exclu. Le lait, vous avez parlé encore, par exemple, d'une personne qui...
J'ai dit que, comme antipoison, il y en a plusieurs, ça dépend du poison qu'on a ingéré.
Vous voudrez parler d'abord du charbon.
Les métaux lourds, par exemple, on utilise un complexe chimique qu'on appelle EDTA. Ce complexe chimique, quand on le prend dans l'organisme dans lequel se trouve, il y a une présence d'un métal lourd, ce complexe peut absorber, c'est-à-dire capturer ce métal lourd, former un complexe avec cette EDTA qui va l'entraîner, qui va le faire sortir de l'organisme, parce que dans le cas d'un empoisonnement, le souci du médecin ou du toxicologue, c'est de faire sortir de l'organisme le courant qui provoque l'altération de tissus, l'altération de cellules. J'ai parlé du charbon actif qui est utilisé dans les cas d'ingestion de produits houleux. Cette substance a la capacité, comme je disais tout à l'heure, d'absorber, donc de capturer les substances huileuses et les entraîner en dehors de l'organisme. Donc, il y a plusieurs antidotes qu'on utilise dans le cas de certains poisons. Mais, comme je dis, il y a, par exemple, des poisons, quand on a pris le poison pendant longtemps, il y a accumulation du poison dans l'organisme qui est manifestation de la maladie. En ce moment-là, on s'attaque à la maladie et les petites quantités qui se sont accumulées dans l'organisme, on essaye de voir comment les éliminer de l'organisme ou comment les neutraliser dans l'organisme.
Oui, madame, une curiosité, qu'il s'agisse du charbon ou de l'EDTA, est-ce qu'on peut le consommer, on peut le prendre bien avant, donc à titre préventif?
Non, il faut aller vite. Il faut aller vite dans un centre d'antipoison. Ici, chez nous, à la faculté de pharmacie, nous avons monté une unité de pharmacovigilance. Et dans ce département de pharmacovigilance, nous sommes en train de monter une unité de service d'antipoison. Il faut aller là où on détecte le poison. C'est par rapport au poison qui a été détecté qu'on peut prescrire un antidote. On ne peut pas prendre ça d'une manière préventive, on ne peut pas prendre ça n'importe comment.
Voilà, alors madame, la toute dernière question de l'auditeur, c'était comment reconnaître, comment savoir qu'on a été empoisonné. Ça c'est Kairi à Kalemi. Et la même question a été reprise par un auditeur, Deo Gracias de Boutembo.
Oui, mais il y a des manifestations, hein. Par exemple, je vous dis, dans le cadre d'une accumulation à long terme, par exemple, avec, je vous ai parlé de la silice, il y a cette manifestation de la tuberculose, du cancer, mais par exemple, dans le plomb, avec le mercure en milieu professionnel, on peut trouver au niveau de gencives, il y a des saignements au niveau des gencives, ce sont des signes qui annoncent qu'il y a accumulation d'un tel métal ou d'un tel autre dans l'organisme. Mais en cas d'une intoxication aiguë, parce que les manifestations ne sont pas les mêmes en cas d'une intoxication aiguë ou d'une intoxication chronique. Chronique, c'est à long terme. Aiguë, c'est l'intoxication foudroyante. Il y a des manifestations qui apparaissent tout de suite, de vomissements, de diarrhée, de fièvre. La personne devient flasque. Il y a des manifestations, des choses qui apparaissent qu'on n'avait pas avant et qui subitement apparaissent dans le cas d'une intoxication aiguë, de maux de tête. Il y a plusieurs signes qui peuvent apparaître.
Donc vous pouvez par exemple penser à un cas d'allergie.
L'allergie également. La forme la plus simple d'une allergie, c'est l'apparition de petits boutons au niveau de la peau, c'est parfois de l'œuvre qui gonfle. On a pris un aliment, il y a de l'œuvre qui gonfle.
La pâleur, vous avez un cas de pâleur, pâleur au niveau du visage.
Oui.
Voilà, alors madame, donc nous comprenons qu'il y a des poisons à effet rapide et d'autres à effet lent.
Tout dépend de la dose consommée, absorbée. Tout dépend, en psychologie, tout est notion de dose.
Alors, merci Derrick Samoala de Lubumbashi de nous rejoindre. Merci également à Gédéon Mwanda d'être avec nous. Derrick, vous êtes au Katanga. Quelle est votre préoccupation? Bonjour.
Bonjour Gère, bonjour madame. Gère, j'aimerais poser la question à madame de savoir, en cas de surdosage, est-ce qu'on peut prendre le jus de palme ou soit le miel sauvage?
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en cas de surdosage, de quoi? Ça dépend de la substance qu'on a absorbée.
On va parler
du pétrole. Si vous prenez du jus, vous favorisez la fixation du pétrole. Nous allons parler du miel. Le miel n'a aucune activité anti-poison. Donc, ça dépend de la nature du poison que vous avez absorbé. Mais d'abord, il faut être sûr que vous avez absorbé un poison. Il faut absolument aller dans un centre d'antipoison pour qu'on puisse identifier le poison et prendre des mesures qui s'imposent pour neutraliser les effets du poison dans l'organisme.
Oui, M. Derrick insiste, madame, en disant que...
Non, il faut d'abord identifier le poison.
Le poison.
La présence du poison dans l'organisme. En ce moment-là, on prend des mesures qui s'imposent.
Oui, en cas de surdosage des produits pharmaceutiques, par exemple.
En cas de surdosage, ce qu'on va faire... Ça dépend aussi de la quantité du médicament qu'on retrouve dans l'organisme. La première réaction, c'est d'essayer d'évacuer le produit de l'organisme. Mais si, par exemple, c'est un produit qui se trouve au niveau du sang, on va essayer de trouver des médicaments qui neutralisent les antidotes, comme on a parlé tout à l'heure, qui essayent de capturer, d'empêcher le poison d'agir.
Je suis Fouraya Boutembo. Quel est le sort des enseignants? Voilà, ça c'est le cas de parler de sujet du jour. Alors, nous prenons d'abord Gédéon Mwanda de Goma, au Nord Kivu. Bonjour Gédéon.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à l'invité aussi.
Voilà, votre question?
Nous, ici à l'Est, il y a souvent un poison qui fait tabac ici, qu'on appelle carouo. Je ne sais pas si l'invité a la connaissance de ce produit ici, parce que ça embête un peu la population. Je voulais savoir l'idéal, c'est quoi? Si oui, madame qui nous explique, qu'est-ce qu'il faut faire quoi, en cas d'empoisonnement de ce poison ici, carouo.
Oui, Gédéon, vous voulez parler de carouo?
Carouo,
ok. Alors, Michel n'est pas, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Michel.
Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai aussi une préoccupation. Et c'est en tant qu'agent de santé que je voulais poser aussi cette question.
Oui, allez-y.
Nous nous retrouvons toujours confrontés à ce problème. Bon, c'est surtout en cas de morsure d'un serpent. Bon, on ne sait pas comment s'y prendre. Ou même en cas d'un suicide, quand quelqu'un a tenté de se suicider en ingérant peut-être le DDT.
Merci beaucoup, Michel. Merci, donc, deux préoccupations très, très pertinentes. Madame, d'abord, connaissez-vous le poison carouo?
S'il vous plaît, nous sommes en train de monter tout un programme. Nous allons faire une tournée au niveau de province pour essayer de relever les poisons qui sont les plus fréquemment utilisés pour savoir quelle est la composition de ce poison. Et dans le cas... Si on a la connaissance de la composition des poisons, en ce moment-là, on pourra prendre des mesures qui s'imposent. Donc, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de spéculations, il y a même la psychose parmi les hommes politiques, tout le monde parle d'empoisonnement, on a été empoisonné. Je pense qu'il y a beaucoup de supplications.
Il y en a beaucoup à dire.
Donc, la psychose dans le milieu politique. Donc, nous, on est des scientifiques, on ne peut pas réagir par rapport aux rumeurs. Nous devons faire un travail scientifique. Donc, pour le moment, c'est la réponse que je pourrais donner à ce monsieur-là.
Oui, le commun des mortels le sait, d'ailleurs, qu'une morsure de serpent, ou peut-être le venin, comporte quand même du poison. Hein, c'est
oui, oui. Alors, pour la morsure du serpent, la chose d'abord à faire, c'est un sérum qu'on doit donner. Hein, et puis, nous savons que dans la morsure du serpent, il y a des toxines qui détruisent nos cellules. Mm-hmm. En ce moment-là, on fait un traitement symptomatique pour essayer d'arrêter les lésions qui sont produites suite aux toxines qui sont libérées dans les venins du serpent.
Alors, quelqu'un qui a consommé le DDT?
Le DDT, c'est un insecticide. Le DDT, dans le cas d'une consommation du DDT, il faut prendre le contexte dont je vous ai parlé au début. Mm-hmm. C'est le DDTA qu'il faut prendre pour essayer d'éliminer, de capturer le DDT pour l'éliminer de l'organisme.
Donc le DDTA, on peut le trouver dans toutes les officines pharmaceutiques?
En principe, mais dans notre pays, je ne donnerai pas ma main à couper. Hein.
Voilà, alors j'ai encore avec moi deux préoccupations. Maintenant, on prend d'abord celui qui est en ligne, disons l'auditeur qui est en ligne, Costa de Kananga. Bonjour Costa.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Merci de nous rejoindre. Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'ai une petite préoccupation. Je voulais savoir la différence qui est entre intoxication et empoisonnement. Voilà.
Merci beaucoup. Nous avons également la réaction de Foura Boukembo qui pose la question à Madame Biébié Songo. Quel est l'essor des enseignants qui absorbent la poussière de la crèche chaque jour?
Ah oui, c'est la silice, hein? C'est la silice, je vous ai parlé de la silice. Au bout de 15 ans, de 20 ans, on peut développer une tuberculose ou un cancer de poumon.
Intoxication, empoisonnement, quelle différence?
L'intoxication et l'empoisonnement, c'est la même chose. Hein. La présence dans l'organisme d'un élément qu'on ne devrait pas trouver dans l'organisme.
Quelqu'un qui travaille à la savonnerie artisanale, quel sera son sort parce qu'il y a des soude caustique? C'est une réaction des Congolos à Béni.
Oui, mais dans toutes ces industries, en principe, il y a des mesures d'hygiène qu'il faut respecter. Quand on travaille avec le solvant, il faut porter des masques pour ne pas inhaler ce solvant, parce que le solvant, quand on les inhale, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a accumulation, ça peut avoir des effets au niveau des organes sur lesquels se fixe ce solvant. Le solvant, le méfait, c'est souvent au niveau du poumon.
Merci, c'est tout le plaisir était pour nous, madame, de vous avoir comme notre invité.
Pour
parler de ce sujet, quel traitement à suivre en cas d'empoisonnement? Georgette Biébié Songo, vous êtes experte en toxicologie et professeure à l'Université de Kinshasa. Nous allons vous retrouver très prochainement. Au